9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Comment analyser les résultats du premier tour de la présidentielle? La France est-elle divisée en deux blocs, en trois blocs, en quatre blocs? Olivier Berruyer, qui dirige le site d'information Elucide, est mon premier invité ce matin. La guerre aussi, on s'en aperçoit de plus en plus en Ukraine, est une affaire de critères. Les critères changent d'un jour à l'autre. Alors on va voir ça avec Frédéric Ancel, l'auteur des Voix de la puissance. Et l'on terminera l'émission avec le comédien Michel Bouquet, qui nous a quittés cette semaine à 96 ans. Je l'avais interviewé il y a 15 ans dans sa loge au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'était un sacré monsieur.
Europe 1.
Bonjour Olivier Berruyer.
Bonjour.
Vous dirigez le site Elucide, dont la devise est « Demain se comprend aujourd'hui ». Vous êtes actuaire de profession, vous savez lire les chiffres. Alors vous avez vu quoi, vous, dans ces résultats du premier tour de la présidentielle? La France est-elle divisée en deux blocs, classe populaire d'un côté, élitaire de l'autre? En trois blocs, un tiers de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, un tiers au centre autour d'Emmanuel Macron, un tiers à droite autour de Marine Le Pen, ou en quatre blocs, si l'on n'oublie pas les abstentionnistes qui représentent quand même 26% des inscrits.
Oui, et d'ailleurs un tiers des plus de 18 ans, puisqu'il faut tenir compte de tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et qui représentent à peu près 8% quand même des plus de 18 ans. Donc c'est vraiment un tiers qui ou ne s'est pas déplacé ou ne s'inscrit même plus sur les listes électorales. Alors en effet, nous venons de sortir une étude très détaillée ce matin des résultats de la présidentielle sur Elucide. Et le premier point qui ressort, c'est évidemment, comme ça s'est vu dans les résultats, l'émergence de trois blocs de taille à peu près comparable. Ce qui a d'ailleurs été une petite surprise, puisqu'évidemment, les sondages n'avaient pas vu arriver, en particulier Mélenchon. Ce qui pose d'ailleurs une vraie problématique sur finalement à quoi servent les sondages. Je ressortais dans les archives, j'ai regardé. Fin janvier, Pécresse était à 18. Fin février, Zemmour était à 17%. Le 10 mars, pile un mois avant, Mélenchon était à 10%. Et le 8 avril, deux jours avant, il ressortait à 16%. Ce qui pose quand même certains problèmes en termes d'équité, puisqu'on se sert des sondages maintenant pour les temps de parole et aussi sans doute d'influence de la population. Si on revient sur ces trois blocs, en fait, évidemment, bon, tout le monde là est stressé par le deuxième tour qui déplaît à une vaste majorité de la population, évidemment. Maintenant, si on prend un peu de recul, on voit apparaître quand même quelque chose de plutôt ordonné. C'est ce qui est apparu. C'est ces trois pôles, finalement, qui ont une structure sociologique, démographique et géographique assez simple, finalement. Si on résume, évidemment, en caricaturant un peu, Macron, finalement, vient de reconstituer un grand parti conservateur. Alors, il s'est félicité de l'augmentation de son score, ce qui est assez rare. Mais en fait, ce qui est un peu fou, c'est que ce n'est pas le même électorat, en fait. On voit qu'il y a une partie importante de ceux qui ont voté pour lui en 2017 qui sont partis plus à gauche, et que c'est surtout l'électorat Fillon qui s'est reporté vers lui. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez fou. C'est les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes personnes qui votent pour lui sur des orientations politiques assez différentes. Donc, ce grand parti conservateur, on voit qu'il regroupe finalement les personnes qui ont peur du changement, et qui sont en gros soit les plus riches et qui profitent du système actuel, soit surtout les plus vieux, puisqu'il fait un score très important chez les plus de 70 ans, dont on pourra redire un mot un peu plus loin. Et il est surreprésenté à l'Ouest et en Île-de-France. Voilà, c'est ce qui apparaît. Le deuxième bloc, c'est le bloc Le Pen, qui représente ceux qui ont des bas revenus dans la société. Géographiquement, c'est plutôt l'Est, le Nord, le Midi. Et ces deux blocs-là, finalement, si ce n'est que si on remplace évidemment l'étiquette Macron par l'étiquette Fillon, qui est la bonne étiquette pour pouvoir comparer à 2017, c'est une représentation politique, sociologique, géographique assez stable. C'est pas très nouveau, c'est comme ça depuis un moment. La nouveauté, c'est vrai que c'est Mélenchon qui a réussi à obtenir un score assez frappant quand même. Je répète, 10% un mois avant, il finit à 22%. Donc on voit un troisième pôle qui est assez intéressant parce qu'il est assez homogène aussi, et c'est pour le coup plutôt les jeunes et plutôt des jeunes éduqués, mais sans être évidemment les jeunes qui sont destinés à avoir les plus hauts revenus. Donc c'est des jeunes qui ne sont pas privilégiés et qui sont évidemment surtout implantés dans le sud-ouest. Il y a une forte corrélation avec le niveau éducatif dans le vote Mélenchon.
Alors qu'est-ce que l'on peut dire d'ailleurs en fonction de l'âge, qu'est-ce qui s'est passé là au cours de ce scrutin?
Il s'est passé une vraie fracture générationnelle qui interpelle quand même. Quand on regarde, il n'y a pratiquement que 10% des plus de 70 ans qui ont voté à gauche. C'est 90%, on vote à la droite dure, à l'extrême droite, t'es pour Zemmour, pour... C'est à peu près qu'eux qui votent pour Pécresse. Alors Pécresse fait 1% chez les jeunes, les LR, et a disparu chez les actifs. Et ça pose un certain nombre de problèmes, parce que finalement, quand on regarde les sondages pour le deuxième tour aussi, si on regarde le deuxième tour, en tout cas, bon, les sondages en prenant des pincettes pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais quand même, si on prend que les plus de 65 ans, Marine Le Pen gagne. Ce qui fait l'éventuelle réélection de Macron, ça va être les personnes les plus âgées. Donc ça pose des vraies questions en termes de...
Les personnes de plus de 70 ans,
Oui, de plus de 70 ans, oui. Donc ça pose un problème, je dirais simplement, de philosophie politique. Si on réfléchit à c'est quoi la politique, comment ça marche, d'avoir un président qui est élu par les inactifs dans la société. C'est évidemment les inactifs, le climat, c'est pas leur priorité, les acquis sociaux, c'est pas leur priorité. On a quand même des gens qui ont bénéficié de la retraite aux 60 ans, qui expliquent aux jeunes qui souffrent, il faut arrêter... passer à 65 ans, ce qui est quand même la seule proposition phare de Macron, qui est une destruction d'acquis social et en plus inutile, puisque le Conseil d'orientation des retraites vous dit que ce n'est pas la peine, jusqu'en 2070, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Donc on a un vrai problème de légitimité, clairement, qui va se poser après l'élection dans ces conditions-là. Et si on rajoute aussi au niveau des jeunes, les jeunes qui ont quand même souffert depuis 2 ans, on leur a dit « restez à la maison, il faut sauver les vieux ». Bon, après, on leur a dit, les vieux seront sympas avec vous après, quand même, il faut échanger. Et puis, en échange, c'est, je t'enlève le RSA, je t'enlève le chômage, je t'enlève la retraite. Ça risque de poser des vrais soucis, ce point-là.
Effectivement, au cours de ce premier tour, Emmanuel Macron a été battu par Marine Le Pen chez les moins de 50 ans. Il a été battu par Jean-Luc Mélenchon chez les moins de 25 ans.
Oui, bien sûr. Et je dirais ce qui est le plus étonnant, il y a un graphique qu'on montre assez peu, un axe d'analyse qui est assez rare et pourtant qui est le plus intéressant peut-être, puisque c'est le plus discriminant. C'est quand on demande aux gens comment vous allez dans la vie, votre vie elle est comment. Et puis ceux qui répondent ma vie c'est génial, il y en a 50% qui votent Macron. Ceux qui répondent ma vie c'est un enfer, je suis pas satisfait de ma vie, 50% votent Marine Le Pen. Mélenchon, c'est ceux qui sont ni pour ni contre, en fait, quand on regarde cet axe-là. Et finalement, c'est assez stupéfiant de voir en ce moment une campagne très forte des macronistes. Enfin, quand on est sur Twitter, quand on regarde ce qui se passe, vous voyez des gens clairement qui gagnent 15 000 euros, qui sont en train d'expliquer à des ouvriers que c'est quand même très très mal de ne pas voter pour la retraite à 65 ans. Il y a un problème de compréhension aussi des problématiques d'une large partie des Français.
On fait une pause, Olivier Berruyer, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On revient sur les résultats du premier tour de la présidentielle avec Olivier Berruyer qui dirige le site d'information Elucide. Et sur les intentions de vote au deuxième tour, alors ?
Sur les intentions de vote au deuxième tour, on voit que les choses vont être extrêmement serrées et peut-être plus que ce qu'on pense, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les sondages donnent Macron gagnant avec 1, 2, 3, 4 % d'écart, sachant que vous avez déjà en théorie 2, 3 % de marge d'erreur. Quand tout est très bien fait, on a très bien vu au premier tour que c'est vraiment pas très bien fait les sondages.
Peut penser aussi que les gens se sont décidés au dernier moment à porter leur voix sur ce qu'on a appelé le vote utile, c'est-à-dire soit Jean-Luc Mélenchon quand on voulait qu'il soit au deuxième tour, soit sur Marine Le Pen ou sur Emmanuel Macron pour les mêmes raisons.
Oui, non, mais il ne s'agit pas juste de taper sur les sondages. Parce que je crois qu'on attend d'eux quelque chose d'impossible, c'est de prédire l'avenir à 2 mois à l'avance. Je dis juste dans ce cas-là, pourquoi on les fait, à quoi ça sert? Parce que si les gens se décident à un dernier moment, pourquoi on fait des sondages en janvier? Ça sert à quoi? Et on voit très bien que ça donne des résultats faux. C'était le sens de ma remarque. Donc pour le deuxième tour, les choses vont être tendues probablement malgré la campagne actuelle. Et je dirais, il règne quand même, pour ceux qui s'en rappellent, une sacrée ambiance de 2005. C'est aussi un vote, comme l'a dit clairement Emmanuel Macron à Strasbourg il y a 2 ou 3 jours. Il y a eu cette phrase disant ce vote, c'est aussi un vote pour ou contre l'Europe. Bon, c'est peut-être pas un truc à dire. Un référendum pour ou contre l'Europe, quand on voit l'historique et le passif sans doute démocratique sur ce point-là, c'est peut-être pas le meilleur argument à dire, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, en fait. C'est sûr que vous ne pourrez pas faire des acquis sociaux, vous ne pourrez pas changer quoi que ce soit dans le cadre du système actuel. Mais il ne s'agit pas de dire que l'un est mieux que l'autre, c'est pas le sens de mon propos. Et d'ailleurs, petite remarque qu'on peut faire sur le premier tour, en tout cas, et donc sur ce qui va se passer après, c'est qu'en fait, on a 3 partis populistes. On parle de suite gauche et on parle de suite droite. Le bloc macroniste, c'est aussi un populisme. Et finalement, comment on peut définir le populisme? Ils ont des caractéristiques assez proches. C'est dans le fonctionnement, ces trois parties. Un, tout se joue sur le leader. C'est Marine Le Pen, c'est Mélenchon et c'est Macron. Et j'insiste évidemment sur la partie macroniste, puisqu'on n'en parle jamais. Emmanuel Macron, il a donné ses initiales au parti. Donc comme quoi, le leader, il a un rôle quand même très, très important. C'est de la démagogie et c'est aussi une forme d'incompétence. Et quand on regarde, c'est
exactement ce qui se passe. Pourquoi l'incompétence?
Bah, de l'incompétence à plusieurs niveaux. Bah, je sais pas, vous dites, il y a un sacré problème de finances publiques en France. J'ai rêvé, bon, le quinquennat Macron, il finit avec 600 milliards de dettes. Et il y avait déjà des dettes avant le Covid, qu'on dit pas, c'est juste le Covid. Bon, c'est très mal géré, ce truc-là, comme les autres. Et incompétence politique. Parce qu'il y en a beau dire, quand même, après, enfin, Macron se fait élire face à Le Pen en disant, ouais, il faut combattre l'extrême droite. Bon, après 5 ans de mandat Macron, ils font 30% au premier tour, ils vont peut-être gagner le deuxième tour. Mauvaise stratégie, sans doute. Et c'est vrai que taper sur les pauvres et être le président des riches, ça n'aide pas à stabiliser politiquement le pays. Et cette campagne d'entre-deux-tours est hallucinante, parce qu'évidemment, tout le monde... C'est l'électorat, quand on regarde les chiffres et les projections, c'est l'électorat mélenchoniste qui va faire l'élection. Hein. Parce qu'en termes de réserve de voix, Macron-Le Pen, c'est à peu près 50-50 et ils font à peu près 37-38%. Donc c'est comment va voter le bloc mélenchoniste. Et donc, sur cette partie-là, évidemment, il faudrait que... le job de Macron, c'est de faire un programme qui va plaire aux mélenchonistes pour qu'ils votent pour lui. Bon, il vient de dire, je ne changerai rien, chaque personne qui vote pour moi valide mon programme et je l'appliquerai. Bon, c'est bizarre de faire de la politique comme ça. Il est bien évident qu'un Chirac ou un Hollande dans cette position-là aurait fini par dire « Bon, la réforme de retraite, on verra plus tard. Hein, mon successeur s'en chargera. Je remets l'ISF, etc. etc. » C'est ça, la politique, normalement. Sinon, vous êtes juste un petit
fou. Oui, mais c'est ce qu'on a reproché aussi et à Jacques Chirac et à François Hollande. C'est de n'avoir rien fait.
Tout à fait. Ah ben, il fait. Maintenant, si Marine Le Pen est élue dans 10 jours, bon, venez pas vous plaindre, quoi. C'est juste ça. Je veux dire, quand on veut faire de la politique, normalement, on est censé faire plaisir un minimum aux gens dont on souhaite qu'ils votent pour votre programme. Là, actuellement, il ne fait absolument pas ça. Donc, ça montre aussi une incompétence politique.
Merci, Olivier Berruyer, pour une analyse qui change par rapport à tout ce qu'on a pu entendre depuis une semaine sur les résultats de ce premier tour de la présidentielle. Je renvoie à votre site Elucide. On fait une pause, on se retrouve juste après. On revient sur la guerre en Ukraine avec Frédéric Ancel.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, vous venez de publier Les Voix de la puissance chez Odile Jacob. Le président Joe Biden a effectué cette semaine un revirement stratégique en acceptant de livrer à l'Ukraine des systèmes d'artillerie et des moyens de transport blindés. Il refusait jusque-là de fournir des armements offensifs qui risquaient, disait-il, de faire des Américains une partie prenante dans la guerre. Mais c'est fini. Joe Biden ne fait plus de distinction entre armement défensif et offensif. Ça n'est plus un critère.
Alors, ce n'est plus un critère, sachant que ce n'est pas un critère absolu de façon générale de toute façon. C'est-à-dire que lorsque vous parlez d'une arme stratégique, on sait ce que c'est. C'est une arme qui peut permettre de projeter la terreur nucléaire. Lorsqu'on parle d'arme tactique, on sait ce que c'est. Ça ne concerne pas le nucléaire et, a priori, on ne parle pas de chasseurs-bombardiers, on ne parle pas de bâtiments de surface, donc des armes extrêmement lourdes. Après, pour le reste, qu'est-ce qui est offensif, qu'est-ce qui est défensif ? En réalité, vous n'avez pas de grammaire absolue. Donc j'ai presque envie de vous dire que ça ne coûte pas très cher en réalité à Joe Biden de dire que dorénavant les armes vont être plus offensives. Par exemple, on peut imaginer qu'il livre des chars à l'armée ukrainienne, sachant que des chars de toute façon ne sont plus en réalité considérés depuis longtemps comme des armes stratégiques. Donc même s'ils peuvent propulser des obus sales, comme on les appelle, c'est-à-dire des obus par exemple dotés de gaz de combat. Donc on est dans le flou en réalité. Donc je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un changement stratégique conséquent. En revanche, là où je vous suis, c'est qu'il s'agit d'un changement rhétorique. Autrement dit, M. Biden dit quelque chose. Et en cela, je pense que le rapport de force défavorable à l'armée russe le pousse à jouer, en quelque sorte, à pousser lui-même les feux et à jouer à l'offensif, en réalité.
Ça nous dit aussi, au fond, que cette guerre est aussi une affaire de critères. Par exemple, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir utilisé l'arme chimique à Mariupol. L'Occident pourrait très bien en faire un critère, comme il l'avait fait pendant la guerre civile en Syrie. C'était la ligne rouge, à l'époque, à ne pas dépasser avant de reculer, puisque Barack Obama avait refusé d'intervenir. Cette fois, on s'est bien gardé d'en faire un critère. On ne menace pas Vladimir Poutine comme on menaçait Bachar el-Assad.
Eh bien non, on ne menace pas. Alors d'abord parce que la puissance de l'armée russe, malgré tout, n'a rien à voir avec celle de l'armée syrienne et que de toute façon, on ne veut pas être co-belligérant. Et ça, pour le coup, absolument personne, même les Polonais et les Baltes, ne veulent être directement co-belligérants face à l'armée qui dispose quand même de 6000 têtes nucléaires. Maintenant, ce qui me paraît plus important, c'est que, en réalité, la ligne rouge, elle est surtout territoriale et diplomatique. C'est-à-dire que soit l'OTAN, les États de l'OTAN, notamment la Roumanie, la Pologne, les États baltes, sont directement touchés un jour ou l'autre par des armes ou des soldats russes. Et là, pour le coup, je pense que la ligne rouge sera atteinte. Soit ce n'est pas le cas. Et si vous voulez, on a affaire davantage à une ligne rouge donc territoriale que qualitative. Autrement dit, à mon sens, quel que soit l'usage des armes qui sera fait en Ukraine par Vladimir Poutine, en réalité, ça restera hors de l'OTAN, ça restera en Ukraine. Et comme l'avait bien dit M. Biden dès début janvier 2022, en réalité, il n'y aura pas de co-belligérance en Ukraine, sous-entendu, quelle que soit la nature des armes russes employées dans ce pays.
Autre critère souvent invoqué, le génocide. Le président Zelensky accuse la Russie de génocide. Un mot repris par le président des États-Unis qui accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide. Mot repris également par le Premier ministre Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Le président Emmanuel Macron, lui, s'y refuse. Ce que Volodymyr Zelensky a trouvé blessant, je le cite, il trouve blessant que Emmanuel Macron n'utilise pas, refuse d'utiliser le mot de génocide.
Non, je pense qu'Emmanuel Macron a raison. C'est un terme qui est extraordinairement galvaudé. D'ailleurs, il a été notamment par Vladimir Poutine ces dernières années. Je rappelle qu'il en parlait même face aux maigrichonnes troupes géorgiennes en 2008. Bon, donc il l'emploie de manière dévoyée, outrancière, ce qui d'ailleurs affaiblit fondamentalement son propos. Donc je pense qu'il ne faut pas le reprendre, non pas parce qu'il n'y aurait pas possibilité de constater un jour un génocide, mais d'une part, il faut d'abord que des enquêteurs internationaux puissent établir qu'il y a effectivement génocide. Et ça prend du temps et ça demande des moyens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, si vous voulez, un problème définitionnel. Le génocide en droit international, ce n'est pas tout et n'importe quoi, c'est le crime des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire si on reprend la définition de Raphaël Emkin, le juriste juif polonais en 1943 et établi en 1948, c'est la volonté, donc on trouve une intentionnalité, attention, hein, donc la volonté délibérée par un État de détruire tout ou partie d'une population en fonction de sa race, de son ethnie, de sa religion ou de sa nationalité, pour résumer. Bon, écoutez, pour l'instant, il me semble que Emmanuel Macron a parfaitement raison de se méfier de ce terme parce qu'il n'est pas établi objectivement qu'il y a aujourd'hui politique génocidaire, même si par ailleurs, il y a très manifestement la perpétration de crimes de guerre, mais ce qui, en droit international, n'est pas la même chose.
Mais ce n'est pas anodin de la part du président Zelensky d'utiliser le mot génocide, parce que si c'est un génocide, les pays qui considèrent qu'effectivement c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir militairement pour l'empêcher. C'est ce que Emmanuel Macron a rappelé d'ailleurs, et il a dit ce n'est pas aider l'Ukraine que d'entrer dans une escalade verbale sans en tirer toutes les conséquences.
Absolument. Et le cas de figure absolument tragique qui avait prévalu à l'époque, c'était en 1994 au Rwanda, où le président Clinton, ne voulant pas risquer la vie de soldats américains qui venaient par ailleurs en Somalie d'être tués dans ce qu'on appelait la chute du faucon noir, en fait, dans une embuscade, ne voulant pas donc finalement que l'ONU le rappelle des soldats américains dans ces génocides, avait exigé à Bill Clinton, de son ambassadrice au Conseil de sécurité, qu'elle n'emploie pas ce terme, parce que vous avez raison, si le Conseil de sécurité l'emploie, ou si les États indépendants l'emploient, il y a très concrètement et manifestement la nécessité, l'obligation de tout mettre en œuvre, alors je traduis, c'est la guerre, tout mettre en œuvre pour y mettre fin. Donc je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, encore une fois, a raison, à double titre. Un, parce que pour l'instant, ce n'est pas établi objectivement sur le terrain, même si, encore une fois, la politique russe est excessivement brutale, ça, ce n'est pas là-dessus, personne ne le conteste, mais ce n'est pas encore établi, d'une part, et d'autre part, il y a risque, effectivement, d'escalade en termes de co-belligérence à force d'employer ce terme.
Alors, autre critère, celui de la victoire. Qu'est-ce qui fait que Vladimir Poutine peut ou ne peut pas se déclarer victorieux en Ukraine? Au fond, ça dépend uniquement de lui. C'est lui qui décide s'il est vainqueur ou pas.
Absolument. On est dans la subjectivité la plus totale. Et d'ailleurs, c'est un débat philosophique central depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années. Dans la mesure où, pendant des siècles et des siècles depuis la Haute Antiquité, celui des deux ou des trois ou des quatre belligérants qui se retiraient au coucher du soleil du champ de bataille était considéré comme le perdant et l'admettait d'ailleurs. Depuis, au moins Verdun, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, on assiste, enfin depuis maintenant plusieurs décennies, à une subjectivation beaucoup plus importante de la victoire et de la défaite, de la notion de victoire et de la notion de défaite. Et aujourd'hui, effectivement, ça tient davantage, au fond, à celui qui veut bien l'admettre ou ne pas l'admettre. Or, pratiquement plus personne n'admet la défaite. Donc, je vous répondrai très concrètement pour ce qu'il s'agit, pour ce qui concerne aujourd'hui M. Poutine. Je pense que s'il obtient l'ouest du Donbass et s'il obtient les zones maritimes du sud de l'Ukraine, il pourra crier victoire en disant « Mais attendez, sur Kiev et sur Odessa, en réalité, je ne voulais que faire diversion. Donc, je suis finalement victorieux car sur le terrain, ce qui ne sera pas faux, j'ai remporté, j'ai conquis des territoires qui reviennent en principe à la Russie, blabla, et ensuite on retrouve la propagande habituelle. Mais effectivement, il n'est pas du tout impossible qu'une fois la poussière de la guerre retombée, on assiste à un discours triomphal, pourquoi pas par exemple le 9 mai prochain, un jour de la commémoration de la victoire de la grande guerre patriotique contre les nazis, à un Poutine qui dira publiquement « J'ai gagné parce que, regardez, l'ouest du Donbass a été conquis par nos vaillantes troupes ».
Et plus généralement, et ce sera ma dernière question, Frédéric Ancel, compte tenu de tout ce que l'on vient de dire, est-ce que l'OTAN est aujourd'hui en guerre contre la Russie ? Au fond, là non plus, il n'y a pas de critères. On ne se déclare plus la guerre depuis longtemps.
Oui, on ne la déclare plus d'ailleurs. C'est daté, c'est signé depuis 1945. C'est Staline courageusement contre le Japon après la chute des deux bombes atomiques. Voilà. Donc depuis, on ne se déclare plus la guerre. Donc la guerre, si vous voulez, on n'en parle même plus d'ailleurs. La plupart des ministres sont les ministres de la guerre, autrefois nommés tels, sont aujourd'hui des ministres de la défense. Et vous avez toute une série comme ça de critères sémantiques et d'éléments rhétoriques très intéressants. Mais néanmoins, le sang coule et les armes parlent et on fait feu. Par conséquent, il y a bien une situation de guerre, ça chacun veut bien le reconnaître, mais personne ne veut se déclarer en guerre, et d'ailleurs pas non plus la Russie. Donc je vous dirais d'un seul mot que l'OTAN, aujourd'hui, officiellement, n'est pas en guerre contre la Russie. Aucun de ses membres, et là aussi le président de la République l'a rappelé, la France n'est pas en guerre contre la Russie. En revanche, l'OTAN s'autorise à aider un État qui n'est bien évidemment pas adhérent de l'Alliance, mais qui se considère, lui, comme étant en guerre contre une autre puissance, à savoir la Russie.
Merci Frédéric Ancel. Les voix
Merci
de la
vous.
Puissance, c'est le titre de votre dernier livre qui est paru chez Odile Jacob. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Michel Bouquet, qui nous a quittés cette semaine et que l'on va retrouver bien vite.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Michel Bouquet s'est éteint à 96 ans. Je l'avais interviewé pour Europe 1 il y a 15 ans. J'étais allé le voir dans sa loge au théâtre de la Porte Saint-Martin où il jouait l'avare.
Vous êtes un tel comédien et vous êtes comédien depuis si longtemps qu'on a du mal à imaginer que vous avez pu avoir une vie avant. Il faut dire que vous avez commencé le théâtre à 17 ans. Mais pourtant, vous avez été apprenti pâtissier. Oui. Vous vouliez vraiment être pâtissier ou ce sont les hasards de la vie qui
non,
vous ont
Non, c'est amené... l'exode.
C'est l'exode.
C'est la défaite.
1940, donc.
Vous savez, j'avais 14 ans et demi à la défaite et c'est une des choses qui m'a le plus marqué. Il n'y a pas de choses, même pas ma venue au théâtre après, ou la consécration par certaines personnes dont l'opinion m'était tout à fait nécessaire et qui était favorable. Même ces choses-là n'ont pas eu d'effet sur moi personnellement. C'est la défaite qui a eu un effet épouvantable. On ne peut pas imaginer ce que c'est que son pays défait si on ne l'a pas vécu.
Et alors, en tant que pâtissier, qu'est-ce qui vous plaisait ? Qu'est-ce qui vous attirait ?
Oh ben non, c'était simplement...
C'est la faim, peut-être,
la
aussi.
La confiture.
Oui, c'est
oui,
ça.
Oui, oui. C'était un peu la confiture, c'était un peu le sucre. Oui, c'était un peu... Mais on m'a mis autour. Et autour, vous savez, c'est là, sur les grands marbres, où on brasse les pâtes, n'est-ce pas ? Et c'est très harassant. Et c'est très... Et puis, c'était une époque où on avait très faim. Mais tout était contrôlé de telle manière qu'on ne pouvait même pas sortir la moindre chose. On avait faim et on brassait des pâtes pour nourrir des colonies d'officiers allemands de tout grade qui étaient à l'intercontinental ou qui étaient originaux ou qui étaient à faim. Et alors on leur livrait des choses qu'on aurait voulu manger. Voilà. Et après donc, j'ai commencé le théâtre. Et
c'est là, Maurice Escande,
oui,
je crois.
Oui, Maurice Escande. Et puis alors là, la porte s'est ouverte et tout à coup, je suis sorti du tunnel.
Maurice Escande a été votre professeur, oui. Béatrice Dussan aussi. Oui. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui, on est dans cette loge au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, de repenser, au moment où vous allez jouer l'avare, de repenser à ce qu'il vous disait, comme j'entends de temps en temps de jeunes acteurs, je pense à Denis Podalydès, qui vous citant, vous qui avez été leur professeur, se disent « je repense à ce que me disait Michel Bouquet quand j'étais son élève ». Est-ce que vous pensez à eux, à vos professeurs ?
Pas jamais. Beaucoup, mais je pense que je ne leur ai pas dit merci. C'est tout. C'est le seul regret que j'ai. Je ne suis jamais retourné voir Escande et il m'a donné la vie, en quelque sorte, ma vie artistique en tout cas. Et je me suis aperçu un jour que je ne lui avais pas dit merci. Et ça a été pour moi un chagrin. Il était mort à ce moment-là. Et ça a été un chagrin énorme, non. Et c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi la jeunesse est si dure. Je ne comprends pas pourquoi.
Gérard Philippe, avec qui vous vous êtes trouvé au conservatoire, avec qui vous avez été au théâtre dans Caligula d'Albert Camus, vous jouiez son ami, le poète. Il était très très beau, Gérard
magnifique,
Philippe.
Magnifique.
Vous ne l'étiez pas.
Non.
Au même âge, même si vous étiez pas mal, hein. Mais vous n'étiez pas aussi beau. Est-ce qu'il y a une injustice à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit, il y a des rôles que je ne pourrais pas jouer?
Oh, pas du tout. Oh non, je suis beaucoup trop orgueilleux pour ça. Oh non.
Alors au contraire, vous avez dit, il y a plein de rôles que je vais pouvoir jouer que lui ne pourra jamais jouer. Il n'aurait jamais pu jouer un méchant, par exemple.
Bien sûr. D'ailleurs, je travaillais des choses qui étaient... Pour moi, je travaillais Smerdiakov. Je travaillais des personnages comme ça, je travaillais Chatterton, de Vigny, je travaillais Narcisse de Britannicus, je travaillais des choses comme ça. C'est d'ailleurs dans une réplique que j'ai donnée à un élève qui passait Néron dans le Narcisse de Britannicus que Camus m'a assisté au concours. À la sortie du conservatoire, et il nous a vu sortir Gérard et moi. Il a dit : j'ai besoin de vous parce que j'ai une pièce que je voudrais bien que vous jouiez. Moi, je ne savais pas qui était Camus, je n'avais pas lu L'homme révolté, ça venait de sortir seulement. L'étranger, je veux dire.
L'étranger.
Et donc, j'ai dit : oui, monsieur, si vous voulez.
Pour votre génération, Michel Bouquet, j'ai l'impression que les stars du théâtre, c'était Louis Jouvet, c'était Charles Dullin. Et vous, j'ai l'impression, alors pour avoir lu des interviews que vous donniez à vos débuts, mais aussi par votre jeu, vous êtes très influencé, me semble-t-il, par les Anglo-Saxons, Laurence Olivier au théâtre, et les acteurs américains, et Gary Cooper. Et je me dis, c'est peut-être ça qui fait que vous ne jouez pas avec vos tripes, vous êtes plutôt dans la retenue.
Je ne me rends pas compte du tout comment je joue.
Alors, je ne sais pas comment vous jouiez à l'époque, vous l'imaginez bien, mais vous êtes dans la retenue, vous n'êtes pas dans la...
J'ai l'impression tout le contraire que...
Que vous jouez avec vos tripes
C'est les tripes de la cervelle, mais ça arrive quand même aux vraies tripes.
Mais ça part de la cervelle.
Oui.
Pas du ressenti, vous n'êtes pas acteur studio.
Je ne sais pas comment... Non, je ne suis pas acteur studio. C'est le texte. Je suis un acteur de texte. Je suis un acteur qui prend toute sa vie avec l'auteur.
Au point même que vous voulez disparaître en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'on oublie complètement Michel Bouquet.
J'espère.
J'ai l'impression que c'est toujours ça, hein, que vous enseignez d'ailleurs en tant que professeur, faire disparaître l'acteur, qu'on le voit le moins possible, qu'on en sache le moins possible sur lui.
Qui ne donne pas son avis.
Voilà.
Qui ne donne pas son avis. On a des acteurs intellectuels qui donnent leur avis. Ils
expliquent le texte.
Ils influencent le public. Il ne faut pas l'influencer. Parce que c'est lui qui joue, c'est le public qui joue, c'est pas l'acteur qui doit jouer. L'acteur est un provocateur du jeu du public, c'est une possibilité, c'est parce qu'il laisse la place au spectateur de jouer qu'il est intéressant. Ce n'est pas... Les gens qui viennent dans la salle ne viennent pas pour voir un acteur jouer, ça ne les intéresserait pas, ils viennent pour jouer. Et donc c'est pour moi, la pratique du jeu, c'est de donner la possibilité aux spectateurs de jouer à ma place, presque.
Ceux qui viennent le soir voir l'Avare au théâtre de la Porte de Saint-Martin, ils entendent Michel Bouquet, mais c'est Molière qu'ils écoutent, oui. Et c'est à Molière qu'ils réagissent. Donc, oui. Ce que vous appelez jouer, c'est ça.
Oui, et puis à la part d'Harpagon qui est en eux. Ce qui est important, c'est que je fasse apparaître en eux la part d'Harpagon ou la part de n'importe quel rôle, la part qui les concerne très intérieurement, eux. Parce que sinon, ce n'est pas la peine qu'ils viennent au théâtre. Ils viennent au théâtre, c'est pour, être en confidence intime, sans être partagé par la personne qui les accompagne, en confidence intime avec une part d'eux-mêmes. Et que cette part se révèle en eux. Et donc, ils ont joué à ce moment-là. Ils ont joué avec Molière. Et donc, le travail de l'acteur n'est pas un travail de se faire voir. C'est un travail de passeur qui fait que les deux êtres ont quelque chose à se dire. C'est-à-dire l'auteur, en l'occurrence, et le spectateur. C'est ça son travail.
On fait une pause, on retrouve Michel Bouquet dans un instant.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Retour dans la loge de Michel Bouquet, il y a 15 ans, au théâtre de la Porte Saint-Martin, où il jouait l'Avare.
J'ai l'impression qu'au cinéma, vous ne trouverez pas tout de suite votre vraie place. Vous allez tourner comme ça. Il va falloir Chabrol, Truffaut un peu, mais surtout Chabrol pour vous. Va jouer au cinéma le rôle que Anouilh a joué au théâtre. Il va faire de vous une vedette de cinéma.
Oui, oui. J'étais une vedette, très vite évacuée.
Parce que vous avez arrêté, mais à un moment, pendant 5-6 ans, on ne voit que vous au cinéma. Oui, mais à la fin des années 60, début des années 70, vous enchaînez les films.
Oui, oui. Mais enfin, oui, j'avais arrêté le théâtre à ce moment-là. Mais j'ai eu le sentiment que le théâtre me manquait trop. Et alors donc, à ce moment-là, j'ai dit, je vais arrêter un peu les films et puis je vais refaire du théâtre parce que j'avais besoin de la nourriture du théâtre.
On se demande aussi si vous n'aviez pas peur d'être figé dans un certain type de rôle, parce que vous avez joué certain type de rôle dans une certaine époque.
Oui.
C'était la France de Pompidou, puis Giscard.
Oui, c'est ça,
vous aviez tendance à jouer les PDG, les cadres supérieurs, les députés UDR.
Oui. C'était pas vraiment... Enfin, c'est toujours intéressant, un rôle. Hein. C'est toujours intéressant, quand même. Même la façon dont il est habillé, je veux dire. Quand on revêt le costume d'un rôle, et il est évident qu'on a une impression de le connaître mieux, de saisir un petit peu de son âme. C'est très curieux. Donc, tous les rôles sont intéressants, sont fascinants. Sont fascinants à jouer. Mais moi, j'avais besoin d'une nourriture plus conséquente. Alors donc, je suis retourné au théâtre.
Qu'est-ce qui vous attirait, Michel Bouquet, dans un certain nombre de rôles de parfaits salauds ? Vous en avez interprété. Il y a le jouet de Francis Weber. Il y a Deux hommes dans la ville de Joseph Giovanni avec Alain Delon. Un salaud, vous avez marqué la France entière à l'époque par ce rôle de salaud, de flic qui s'acharne sur ce pauvre Alain Delon.
Des gens m'ont arrêté dans la rue en me disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Je disais « C'est un rôle, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Mais parce que je l'ai pris par la douceur, oui. Évidemment, c'était embêtant pour les vrais. Ouais.
Mais ça vous amusait, là ?
Pour moi, il n'y a pas de vrais salauds. Et c'est pour ça que les salauds m'intéressaient. C'était pour prouver, en quelque sorte, leur innocence. C'était un peu un rôle d'avocat que je prenais avec eux. C'est-à-dire que pour moi, évidemment, il y a des choses que je trouve abominables, etc. On ne va pas revenir là-dessus, ni sur toutes les choses qui ont marqué, qui m'ont empêché de vivre, parce que je n'ai jamais pu oublier l'Holocauste, je n'ai jamais pu oublier la défaite, cette époque-là, je n'ai jamais pu l'oublier. Elle a foutu ma vie en l'air du point de vue de l'amour qu'on doit porter à la vie. Mais c'est très curieux. C'est très curieux. Les salauds, non. Je pensais que... souvent, on me disait, alors ces films, alors... Je disais, je ne sais pas, je n'ai pas ce sentiment. J'ai fait ça pour le sauver, moi, je n'ai pas fait ça pour mais, et volontiers, les gens croyaient que j'avais un plaisir sadique à ça, n'est-ce pas? Alors que moi, j'étais complètement à milieu de ça.
Michel Bouquet, aujourd'hui, vous êtes au Théâtre de la Part Saint-Martin. On est d'ailleurs dans votre loge. Ouais. Vous jouez l'avare, vous faites rire tous les soirs. Dieu sait si cette pièce est drôle. C'est quelque chose qui ne vous est pas arrivé très souvent au théâtre. Si je me trompe, de faire rire.
Oh, ça m'est arrivé, si, ça m'est arrivé de faire rire. Mais je ne me rappelle plus.
Vous vous souvenez plus des salauds. Hein.
Mais non, je ne dirais pas ça. Non, j'ai beaucoup de mal à retenir ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de mal avec le souvenir. Je suis tellement occupé du présent que vous savez, une vie d'acteur, c'est vraiment très dur parce que vous couchez avec le rôle et vous vous relevez avec le rôle. Et vous avez à le refaire. La fatalité du métier d'acteur, c'est qu'il faut refaire. Alors imaginez que vous deviez refaire la même chose. Il faut l'enrichir pour pouvoir la refaire. Il faut que ce soit la seule et unique représentation comme ça. Demain, il faut que ça en soit une autre. Elle va ressembler pour le spectateur. Elle va ressembler, mais pour la personne qui le fait... Pour qu'elle soit vivante, cette interprétation, pour que lui s'identifie, que le spectateur s'identifie à l'acteur, il va falloir que l'acteur se mette en péril. C'est comme le fil de feriste, ça, c'est exactement la même chose. Il va falloir qu'il ne sache pas comment commencer, comment finir. Il a des points de repère, il a des balises de tous les côtés, mais il ne sait pas. Il peut avoir une chute, il peut faire une chute. Et donc, si vous voulez, ce métier-là est très, très fatigant et très horripilant et très, très dur. Et donc, si vous voulez le faire, je veux dire, convenablement, et donner aux gens qui sont là l'impression qu'ils ont vu vraiment quelque chose et qu'ils étaient avec Molière pendant 2 heures. Ça demande un travail sur le présent, ce qui fait qu'on oublie beaucoup d'où on vient ou ce qu'on va faire le lendemain. On est dans une existence du présent qui est ce présent est terrifiant.
Et voilà, c'était Michel Bouquet il y a 15 ans. Il s'est éteint cette semaine à 96 ans.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Et voici Pierre de Villeneau qui anime les grandes voix d'Europe 1 dans un instant. Bonjour Pierre, quel est le programme?
Bonjour Frédéric, nous parlerons bien sûr de l'entre-deux-tours et de ce qui arrive, de cette nouvelle polarisation de la France avec d'un côté un grand parti centriste et puis de l'autre côté une offre populiste et d'extrême droite et puis de l'Ukraine évidemment puisque le fait d'avoir endommagé et coulé le bateau amiral russe, eh bien, ça a des conséquences, notamment militaires.
Merci Pierre, bonne émission.